bientôt penser à installer la clim si ça continue. Donc, bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi, Rachel, Mona, Chantal, Ocilia, soyez toutes trois bénies. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes avec toi aujourd'hui, mais que Dieu les bénisse. Alors, bonjour à tous ceux et toutes celles qui se connectent aussi via la page Internet de l'Église. On ne peut pas voir vos noms ou vos noms ne s'affichent pas, mais on est content de vous avoir avec nous. On sait que très souvent, il y a la sœur Manon Tessier, il y a la sœur Lise, il y a la sœur Concepcia, la sœur Dora, la sœur Dorothy, la sœur Léandra, la sœur Patricia, qui d'autre, le frère Gilles, le frère Claude Bernard. Donc, à vous tous, bienvenue parmi nous. Et à ceux qui nous regardent en différé aussi. Donc, on ne vous voit pas puisque c'est en retard, mais bienvenue parmi nous. Souvent, il y a la sœur Manon Bernard, l'épouse du pasteur André, qui nous écoute très souvent en faisant le marathon des différentes bénédictions matinales en une seule journée. Donc, on la salue bien bas aussi. Bonjour Suze, bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Encore une minute et on commence. Alors on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, de partage, un moment, Seigneur, d'étude de ta parole, un moment pour être confronté avec ta vérité, pour que nos façons de faire puissent s'adapter à ta façon de faire, pour que nos façons de penser puissent s'adapter à tes façons de penser, pour que nos vies s'adaptent à ta parole, à tes préceptes et à ce que tu requiers de chacun d'entre nous. Alors ce matin, on demande que tu ouvres notre entendement à cette parole, que tu puisses réformer ce qui doit être transformé et changé en nous, afin que nous puissions être pleinement les serviteurs que tu désires, que tu as toujours désiré, que nous soyons dociles à cette parole et non pas réfractaires à celle-ci. Seigneur, parle directement à chacun d'entre nous. Illustre, pointe du doigt certaines sections de notre vie qui ne te glorifient pas, certaines façons de faire qui ne te glorifient pas et que tu veux transformer et changer. Et en toute chose, Seigneur, nous nous soumettons à ta parole, la reconnaissant comme la pleine vérité, comme la seule et l'unique vérité et comme la nourriture dont notre âme et notre esprit ont besoin. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère dans ce moment d'étude. Bénis-moi aussi, Seigneur, donne-moi les mots et les paroles pour expliquer les Écritures qu'on va partager ce matin. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la louange, l'adoration, la magnificence te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, excusez-nous pour les contretemps qu'on a eus hier matin lors de notre bénédiction matinale, des problèmes de connexion. Donc, je sais que par la suite, quelques-uns d'entre vous n'ont pas été capables de se reconnecter avec nous ou de voir l'enseignement direct. On vous rappelle que l'enseignement est toujours disponible sur notre page Facebook. Donc, si vous faites descendre l'écran un peu tout à l'heure, vous verrez donc l'enseignement du mercredi 24, mercredi 25. Je ne me rappelle plus trop quelle date on était hier. Mercredi 24 d'hier, donc. Alors, ce matin, on lit toujours dans Deutéronome au chapitre 15, le verset 1 et 2, que je lis à l'instant pour vous. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Je reprends les deux versets. tous les 7 ans, tu feras le relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors on continue avec un terme qui peut être un peu obscur pour nous et qui devient beaucoup plus clair lorsqu'on l'explique avec des connotations qu'il pouvait avoir dans la langue hébraïque de l'époque. Donc aujourd'hui, la thématique, ça serait la fin des pressions. Très souvent, lorsque quelqu'un nous doit un montant d'argent, ben, j'espère que ce n'est pas souvent, mais il arrive parfois lorsque quelqu'un nous doit de l'argent, qu'on fasse des pressions sur lui, qu'on l'appelle ad vitam aeternam régulièrement et qu'on lui dit « mais n'oublie pas que tu as cette dette » ou on lui fait sentir le fait que nous n'avons pas oublié que nous lui avons prêté quelque chose. Parfois, lorsque c'est tout simplement un service, lorsque c'est de la bienveillance que nous avons manifestée envers quelqu'un, malgré tout, puisqu'on sent que cette personne nous est redevable, il arrive malheureusement, parce que nos cœurs sont mauvais, qu'on puisse effectivement faire sentir à cette personne sa redevabilité à notre égard, lui faire sentir qu'elle nous est redevable, qu'elle nous doit quelque chose. Un peu ce retour de balancier que certains d'entre nous, on attend lorsqu'on fait une bonne action, on attend un retour. Et je vous dirais que régulièrement, on fait ça avec Dieu aussi, ça sera juste une petite aparté, mais très souvent, on va offrir un service à quelqu'un en espérant que Dieu en prenne note et qu'il nous rétribue adéquatement en retour. Parfois, il y a certaines personnes qui vont essayer de négocier quelque chose avec Dieu, dire « Ah, je vais jeûner » ou « Je vais prier davantage » ou « À partir de maintenant, je vais lire un chapitre par jour, mais Seigneur, j'aimerais que tu fasses telle chose. » Que tu m'amènes un fiancé, que tu m'amènes une fiancée, que tu me pourvoies un nouveau travail, que tu me donnes une augmentation salariale, que tu fasses en sorte que telle porte s'ouvre ou que telle opportunité se présente devant moi. Alors, on est dans des espèces de tractations. Est-ce que ça fait partie de la nature humaine? Assurément, je suppose que on pourrait le définir comme ceci, mais notre nature humaine est quand même une nature pécheresse, est quand même une nature qui a été détériorée, qui a été abîmée par le péché initial d'Adam et Ève, et par conséquent, génération après génération, nous avons sombré dans le péché par nous-mêmes aussi. Donc, certains vont négocier ou vont tenter de négocier avec Dieu, et ce n'est pas une chose à faire. D'autres vont se limiter à faire de la pression sur leurs frères et leurs sœurs, leur faire sentir « Hey, n'oublie pas que moi j'ai fait ceci pour toi » ou vont le publiciser sur l'ensemble des médias qu'ils peuvent utiliser. Et là, on va voir des photos comme quoi ils ont donné de la nourriture à quelqu'un qui était dans le besoin, comme quoi ils ont donné de l'argent à quelqu'un qui était moins bien nanti. Et ce genre de bonnes actions qu'on va filmer tout simplement, non pas pour promouvoir auprès des autres qu'ils fassent aussi des bonnes actions, même si je crois qu'à l'occasion, ça peut survenir, on voit l'exemple de quelqu'un et on le copie. Mais très souvent, c'est tout simplement pour faire un peu de publicité sur sa propre personne. Donc, le Seigneur nous dit ici, ne mets pas de pression sur celui qui te doit. Que ce soit parce qu'il te doit un montant que tu lui as prêté et qu'il doit te remettre, ou que ce soit parce que tu as rendu un service, tu as posé une bonne action, tu as fait quelque chose de louable et tu t'attends à ce que cette personne te rende l'appareil. La Bible nous dit de ne mettre aucune pression. Et le terme « pression », c'est le terme hébreu « nagas ». « Nagas », N-A-G-A-S, N-A-G-A-S. Et il y a 5 synonymes, si vous voulez, ou 5 images qui ressortent de cette question du terme « nagas ». 5 connotations, plutôt, qui vont en découler. Et un peu comme hier avec la question du terme les droits, le yad, avec les images qu'on avait, la main, l'autorité, une part de quelque chose, l'axe d'une roue ou le tenon dans une mortaise qui lie deux parties de bois ensemble. Aujourd'hui, dans le terme nagas, on va voir aussi cinq statuts, cinq états de personnes ou cinq qualificatifs pour des personnes qui vont peut-être nous faire peur un peu et nous poser la question à savoir est-ce qu'il se pourrait qu'à l'occasion, je sois effectivement comme une de ces cinq, voire plusieurs de ces cinq, et j'espère aucunement les cinq de ces cinq connotations qu'on pourrait avoir sur le terme nagas. Donc nagas, N-A-G-A-S, pour le terme pression. Alors le premier terme qui vient imager la question du nagas, c'est le terme tyran, un tyran. Donc T-Y-R-A-N. Un tyran, c'est quoi? Un tyran, c'est celui qui s'empare du pouvoir ou qui s'y maintient par la force et par la menace. Donc, si je fais de la pression à quelqu'un qui me doit quelque chose ou quelqu'un de qui j'estime être redevable, je peux me comporter comme un tyran. Et le tyran, c'est celui qui se place en autorité ou qui se maintient en autorité par rapport à quelqu'un. Je vais juste... Il y a juste un petit problème technique, voilà. Donc, quelqu'un qui se place ou qui se maintient en autorité par la force et par la menace. Un peu, ouais, mais n'oublie pas que si je te retire mon aide, tu n'es plus rien. N'oublie pas que si je retire mes billes du jeu, tu ne peux plus rien faire. N'oublie pas que tu me dois quelque chose et que j'ai donc des droits sur toi et des droits sur ta personne et des droits sur ce que tu fais. La Bible nous dit de ne pas être dans le nagas, de ne pas faire de pression lorsque nous avons prêté à quelqu'un ou lorsque nous croyons que quelqu'un nous est redevable. Pensons un peu à Dieu. Dieu n'est nullement un tyran. Dieu a envoyé son Fils afin qu'il meure pour votre salut, pour mon salut. Jésus a donné sa vie pour ton salut et mon salut. Et malgré tout, malgré ce don et malgré le fait que nous lui sommes redevables, la Bible nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et j'attends. » Et si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, alors je rentrerai et je souperai avec lui. Dieu, comme on l'a dit à travers les dernières journées, ne défonce aucune porte. Donc Dieu n'est pas un tyran. Dieu ne s'impose pas sur nous. Dieu ne force pas sa présence sur nous. Lorsque nous lui tournons le dos, il reste à nos côtés silencieux. Il reste à nos côtés parce qu'il est omniprésent, donc il est partout en même temps et on ne peut pas se retrouver quelque part sans qu'on soit dans la présence même de Dieu ou sans qu'on soit visible à Dieu. Mais Dieu peut décider effectivement de ne mettre aucune pression sur nous et c'est ce qu'il fait. Dieu ne met pas de pression sur nous. Alors à un même titre, nous ne devons pas être un tyran. Donc nous ne devons pas profiter du fait qu'on a donné à quelqu'un, profiter du fait qu'on a servi quelqu'un pour devenir un tyran par rapport à cette personne. Je le répète, j'aurais dû faire ce préambule tout à l'heure, au tout début de notre étude, le fait que les gens n'aient pas à demander quoi que ce soit en retour de leur service ne fait pas que nous ne sommes pas redevables envers ces personnes, au moins quant à un remerciement, quant à une gratitude et quant à une marque de politesse. Ne pas dire merci, c'est être impoli tout simplement. Alors le premier terme, tyran, qui s'empare du pouvoir ou se maintient par la force et par la menace. Est-ce que ça se peut que parfois tu aies rendu un service et l'attitude que tu as développée par la suite auprès de la personne que tu avais servi, soit l'attitude d'un tyran, soit l'attitude d'un despote, par rapport à cette personne. Le deuxième terme qui va un peu de pair aussi, c'est le terme Seigneur. Et là, on ne parle pas de Seigneur Jésus, on ne parle pas de Seigneur par rapport à Dieu, mais on parle des petits seigneurs de ce monde. Un autre terme serait un suzerain. Donc, quelqu'un qui a sur une certaine population une autorité et une mainmise, qui domine ses vassaux ou qui domine ses subalternes. Est-ce que ça se pourrait que lorsque je commence à servir quelqu'un, lorsque je commence à rendre un service à quelqu'un, je me comporte par rapport à cette personne comme quelqu'un qui lui est supérieur et comme si cette personne qui a nécessité mon aide et mon concours soit maintenant d'un moindre rang par rapport à moi, tout simplement parce que je l'ai servi. Jésus va nous montrer l'exemple parfait du maître. La Bible nous dit que le jour de la Pâque, le jour de son arrestation, Jésus a mis le comble à son amour. Le verset dit textuellement ça. Jésus a mis le comble à son amour et ce faisant, il s'est ceint la ceinture avec un chiffon, il a pris de l'eau et il s'est abaissé à laver les pieds de ses enfants. Et pour ceux qui connaissent un peu la tradition juive, les traditions sociales de l'époque, laver les pieds de quelqu'un était la tâche qui était dévolue plutôt au plus vil des esclaves. Alors Jésus, lorsqu'il va regarder ses disciples, alors que son amour est à son comble à leur égard, il va laisser sa place de maître et il va prendre la position, la fonction du plus vil des esclaves pour laver les pieds de ses disciples. Et c'est ça l'exemple de leadership que Dieu nous a montré. C'est ça l'exemple de leadership que la parole de Dieu nous enseigne. Je dis souvent lorsque je travaille auprès de certains pasteurs, lorsque je donne des cours au niveau de la pastorale, que un des dangers les plus courants pour un pasteur, c'est de penser que lorsqu'il devient pasteur au sein d'une congrégation, il devient un grand quelqu'un. Et penser à ce moment-là que les brebis sont des subalternes qui doivent le servir. La brebis, la Bible nous dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs. Donc effectivement, il y a une marque de respect que la brebis doit avoir par rapport à son berger local, par rapport à son conducteur. Mais le boulot du conducteur est de servir non seulement Dieu, mais de servir aussi le troupeau, donc les brebis. La Bible nous dit que ceux qui aspirent au ministère, que Dieu a pris ces hommes-là et qu'il a donné ces hommes comme don à l'Église. Ça veut donc dire que la vie du ministre, la vie du serviteur de Dieu appartient à l'Église et que le serviteur de Dieu doit donc servir avec toutes les règles et toutes les caractéristiques propres à un bon serviteur. Il doit servir Dieu et il doit servir l'Église. Donc, sachons être humbles dans le service que nous apportons, sachons être humbles dans l'aide que nous apportons à notre prochain, à notre frère, à notre sœur, et sachons que quelqu'un qui demande de l'aide, ça ne fait pas de cette personne un moindre que moindre. Ça ne fait pas de cette personne quelqu'un qui nous est à ce moment-là, qui devient maintenant un sujet de notre seigneurie, qui devient un sujet de l'hégémonie qu'on peut avoir sur un groupe. Sachons exercer notre bonté, notre grâce, notre miséricorde avec amplement d'humilité. Ne devenons ni un tyran, ni un seigneur ou un suzerain par rapport à un petit royaume. L'autre pensée qui était amenée par rapport à pression, c'était le terme taxateur, celui qui taxait ou celui qui était donc celui qui cueille et qui récolte les impôts, un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, que ce soit dans l'histoire antique de l'humanité, que ce soit de façon plus récente, les collecteurs d'impôts ont toujours eu mauvaise presse. Que ce soit même les exemples bibliques qu'on a, Pensez simplement à Zachée. Zachée va dire, si j'ai volé qui que ce soit ou si j'ai pris trop fortement à qui que ce soit, je vais rembourser avec tant de fois supplémentaires, je pense qu'il dit jusqu'à 4 fois le prix que j'ai collecté si j'ai pris à quelqu'un avec trop de force ou avec une taxe trop élevée. Donc, la Bible nous dit de ne pas être un taxateur, de ne pas être celui qui établit les taxes, les impôts ou les redevances par rapport à l'aide que j'ai apportée. La Bible nous dit, et on a cessé de le répéter cette semaine, ne devons rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Donc, quand j'aide quelqu'un, je ne devrais pas attendre en retour ou un retour de balancier. Je ne devrais pas attendre un retour, une dividende. L'aide à quelqu'un ne devrait pas être un investissement pour ma propre cause. Ça devrait être un investissement pour le royaume de Dieu. Et c'est le royaume de Dieu qui devrait bénéficier de notre grâce, de notre bonté, de notre générosité que nous manifestons envers nos frères, envers nos sœurs et envers notre prochain. Alors n'ayons pas cette mauvaise réputation d'être quelqu'un qui prête, et lorsqu'il prête, il devient aussi mal réputé, avec une réputation aussi mauvaise qu'un collecteur d'impôts. Ne devenons pas des taxateurs, ne devenons pas ceux qui disent « voilà, je te prête, mais je dois recevoir en retour », et parfois on va même plus loin que de dire simplement « je devrais recevoir en retour », c'est « voici combien je veux recevoir en retour ». Donnons que notre main droite ne regarde pas, que notre main gauche ne sache pas ce que notre main droite a donné. Ça, c'est l'image pour dire que je donne avec les yeux fermés, que je donne sans calculer ce que je donne sans avoir comme pensée quel va être mon retour sur mon investissement. J'investis dans le royaume de Dieu et il faut que le royaume de Dieu en soit béni, point à la ligne. Donc, nous ne soyons pas un tyran, nous ne soyons pas un suzerain ou un seigneur, nous ne soyons pas non plus un taxateur. Et un terme qui sonne un peu comme taxateur, mais qui est différent, que nous ne soyons pas un exacteur. Un exacteur, c'est toujours en lien avec la taxation, mais l'exacteur, c'est celui qui perçoit des taxes ou des impôts ou des redevances à un taux usuraire. Celui qui prête avec un intérêt bien trop élevé. Celui qui prête en attendant un retour beaucoup trop élevé ou en exigeant un retour beaucoup trop élevé. Alors là, la question, ça va être, mais quel est ce retour qui devient beaucoup trop élevé? Est-ce que 1% c'est suffisant? Est-ce que 2% c'est suffisant? Est-ce que 3% c'est suffisant? Si je me rappelle bien, c'est dans Deutéronome 20 ou Deutéronome 23, il faudrait que vous regardiez. La Bible va nous dire, si tu prêtes à un frère, prête sans intérêt. Ça veut donc dire qu'au-dessus du 0%, lorsque j'aide mon frère, je suis un exacteur. Je prête à un taux trop élevé. Je prête à un taux usuraire. Dès que je dépasse la limite légale du taux d'intérêt, je suis un prêteur usuraire. Je crois qu'ici au Québec, on appelle ça des Shylock. Donc, ne soyons pas un Shylock dans l'Église. Ne soyons pas un prêteur usuraire dans l'Église. La Bible nous dit, si tu prêtes à ton frère, prête sans intérêt. Ça veut donc dire, peu importe quel est le prêt, peu importe quelle est l'aide, peu importe quelle est l'assistance, que ce soit parce que tu prêtes financièrement à quelqu'un ou que ce soit tout simplement parce que tu assistes à travers ta force, à travers ta connaissance, à travers tes habiletés. Lorsque parfois tu te retrouves dans cette situation, j'aide quelqu'un, mais j'attends un retour, ce retour-là n'a pas le droit d'être. Ce retour-là n'a pas le droit d'être parce que tu es supposé simplement devoir à quelqu'un de l'aimer, point à la ligne. Ça veut donc dire que ton frère devant toi ne devrait rien te devoir que de t'aimer. Et voilà pourquoi il nous faut apprendre à ne pas être non plus des exacteurs. Alors, ne pas percevoir une taxe, un impôt, une redevance à un taux usuraire. Dernier synonyme pour ce matin, la Bible nous dit, ou le terme nagas va avoir comme connotation le terme législateur, celui qui établit ou qui édicte des lois, celui qui crée, qui met en place et qui maintient des lois en place. Malheureusement, il y a des gens qui rendent des services et effectivement, ils deviennent des suzerains sur quelqu'un, deviennent des seigneurs sur la vie de cette personne. Et ce faisant, en tant que suzerain, en tant que seigneur, ils se croient habilités, ils se croient mandatés pour commencer à diriger la vie des gens en établissant des règles, en établissant des façons de faire dans la vie des gens. En tant qu'homme, nous ne pouvons pas établir de loi sur qui que ce soit. À part si tu as une autorité sur cette personne, tu serais policier, tu as le devoir effectivement de maintenir les lois que le gouvernement a établies. Tu fais partie du pouvoir législatif, tu es un élu politique. Effectivement, tu as ce pouvoir de maintenir, de créer des lois et de maintenir des lois en place. Tu es un juge, tu as effectivement le devoir, le mandat de faire respecter la loi. Mais lorsque tu es un pasteur, tu peux enseigner les lois de Dieu, mais tu ne peux nullement les imposer. Lorsque tu es quelqu'un qui est en train de former des disciples, ce qui est le boulot de tout chrétien, tu as le devoir d'enseigner un disciple, mais tu n'as pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit sur ce disciple. Donc, c'est des lignes qui sont fines. C'est des pratiques dans lesquelles on tombe régulièrement. C'est des pièges dans lesquels, très régulièrement, lorsqu'on commence à avoir une certaine autorité, lorsqu'un certain respect nous est voué, c'est souvent des dangers qui nous guettent. Et lorsqu'on prête assistance à quelqu'un, de façon presque naturelle, malheureusement, c'est triste à dire, mais de façon presque naturelle, on croit qu'on devient un peu le supérieur de cette personne qu'on a aidée. Alors, en croyant maintenant que j'ai le droit de regard sur l'ensemble de sa vie, sur l'ensemble de ce qu'il fait avec ce que je lui ai donné, c'est comme si tu arrives et tu me donnes une casserole et tu me dis, mais cette casserole ne doit être utilisée que pour cuire des œufs. Alors, tu me dis, n'essaie pas de cuire un ragoût avec ça, n'essaie pas de cuire une sauce tomate là-dedans, n'essaie pas de faire bouillir de l'eau là-dedans. La seule utilité de cette casserole, c'est que tu y fasses cuire des œufs. Et tu es là, jour après jour, en me demandant, qu'as-tu fait cuire dans cette casserole? Et tu viens l'examiner sous tous ses angles, en disant, non, là je vois un sédiment, je vois quelque chose qui est collé. Assurément, tu as fait plus que des œufs sur cette casserole. Lorsque tu donnes et tu ne regardes pas. Lorsque ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche regarde. Tu oublies ce que tu as donné, c'est maintenant entre les mains de l'individu à qui tu as donné et Dieu, entre lui et sa conscience aussi. Donc, lorsque nous donnons, lorsque nous servons, lorsque nous assistons, ou dans toutes les occasions où on a ce sentiment que quelque chose nous est dû, que ce soit des excuses, que ce soit un remerciement, une gratitude, que ce soit un retour de balancier au niveau de l'aide, que ce soit une participation à des bénéfices subséquents à l'aide que toi tu as apportée, à chaque fois que tu penses que quelque chose t'est dû, tu dois te rappeler, tu ne dois être ni un tyran, tu ne dois être ni un suzerain ou un seigneur, tu ne dois être ni un taxateur, celui qui établit les taxes, tu ne dois être ni un exacteur, celui qui perçoit à un taux usuraire, ou tu ne dois être ni un législateur, celui qui établit les règles pour la vie de cette personne. À moins que tu ne sois en train de parler de choses claires de la parole de Dieu qui dit, mon frère, voici, la Bible dit que tu ne dois pas aller pécher. La Bible dit que tu dois t'éloigner de l'iniquité. À part ces choses-là, tu ne peux pas choisir si la personne décide de mettre une chemise blanche ou une chemise carottée. Tu ne peux pas décider si la personne s'achète une voiture rouge ou une voiture bleue. Tu ne peux pas même décider qui la personne va fréquenter. tu ne peux pas décider qui la personne, hein, avec qui la personne va s'associer. Tu ne peux que aider et après ça dire je t'ai aidé, tu ne me dois rien parce que je t'ai libéré, je t'ai pardonné, je t'ai gracié de la dette que tu pouvais avoir à mon égard à l'instant même où je t'ai donné. Et je ne veux en aucun cas appliquer quelque pression sur toi. Alors, voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On va prier que Dieu nous éclaire. Peut-être que Dieu veut te montrer certaines personnes que tu pourrais avoir abusé à travers l'aide que tu as donnée et les attentes que tu avais en retour. Peut-être que tu t'es frustré envers quelqu'un parce qu'il n'y a pas eu de retour de balancier. Et peut-être que tu es coupable donc devant Dieu de t'être frustré et d'avoir attendu ce retour. Quand nous donnons, lorsque Jésus a donné, il a donné sans attendre quoi que ce soit en retour et nous devons faire de même. Alors je prie Seigneur pour moi-même et je prie aussi pour ma sœur ce matin. Ta parole nous a une fois de plus instruits et une fois de plus ta parole Seigneur vient nous bousculer dans notre façon d'être, dans nos habitudes, dans nos mœurs. Et dans notre façon de percevoir ce qu'est l'aide, l'assistance et ce qui doit en découler. Alors Seigneur, nous comprenons qu'effectivement ta parole nous dit de ne pas prêter avec un intérêt, donc de donner sans attendre un intérêt, sans attendre un retour. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu nous permets aujourd'hui d'être confrontés avec des thèmes durs, avec des termes choquants, mais aussi des termes qui sont clairs, qui nous permettent, Seigneur, de nous interroger ou de nous poser des questions sur nous-mêmes. Se pourrait-il, Seigneur, que parfois nous nous soyons comportés comme des tyrans par rapport à ceux que nous avons aidés. Tout d'un coup, parce qu'on les a aidés, on s'est placé en autorité sur ces gens et on maintient une mainmise sur leur vie avec de la force et avec des menaces. Se pourrait-il qu'à un moment donné, lorsque nous avons aidé quelqu'un, ou lorsque nous avons prêté à quelqu'un, ou lorsque nous croyons que quelqu'un nous est redevable, est-ce que ça se pourrait qu'à partir de ce moment-là, on l'ait regardé comme étant un subalterne, comme étant un sujet de notre seigneurie, de notre position de suzerain? Se pourrait-il, Seigneur, que parfois, on ait effectivement établit des taxes par rapport à cette personne. Je t'ai aidé, mais voici ce que j'attends en retour. Et se pourrait-il que parfois les taxes qu'on ait imposées à ces gens ou le retour qu'on ait imposé à ces gens soit vraiment usurier, vraiment outrepassant toutes les règles de bienséance et toutes les règles de grâce que tu nous enseignes. Se pourrait-il, Seigneur, même que parfois on ait commencé à édicter des lois, des façons de faire sur la vie de cette personne en lui disant « mais jusqu'au jour où tu m'auras remboursé, voici, tu me dois et j'applique sur toi une autorité, j'applique sur toi un contrôle, j'applique sur toi une mainmise. » Alors je prie, Seigneur, que si ça a été le cas, que tu nous permettes, Seigneur, d'en être conscient. Premièrement, pour ne pas recommencer. Premièrement, Seigneur, pour éviter de continuer peut-être dans une voie qu'on a empruntée ainsi. Et assurément, Seigneur, peut-être vas-tu nous demander d'aller nous excuser, de demander pardon, Seigneur, pour des abus qu'on aurait pu commettre. Oui, Seigneur, on peut facilement reconnaître lorsque quelqu'un nous fait du mal. On peut facilement reconnaître lorsque nous nous sentons victimes des abus de quelqu'un. Mais c'est parfois moins facile de reconnaître que nous-mêmes, nous avons été un abuseur dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans notre façon d'attendre un retour ou d'exiger un retour sur l'aide, sur l'investissement, sur l'assistance que nous avons apportée à notre prochain, à notre frère, à notre sœur. Alors je prie, Seigneur, que tu nous éclaires. Éclaire-nous, Seigneur, mais terriblement, parce que nous ne voulons pas continuer un instant de plus. Nous ne voulons pas continuer une journée de plus en pouvant, Seigneur, nous méprendre sur notre réel état, sur notre réelle façon d'être, même si ça nous fait mal, même si ça vient nous choquer. Parle-nous et ne retiens point. Merci Seigneur de prendre ce temps pour nous éduquer et pour nous transformer. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, juste quelques personnes à saluer. Je remonte un peu pour voir si je suis capable de voir. J'ai pas beaucoup de monde qui se sont rajoutés depuis tout à l'heure. Ou, mais en fait, il y en a plusieurs, mais j'ai pas nécessairement les noms. Donc, bonjour à Babette et Andreas. Bonjour à Natacha, Indirène, la petite famille. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Ramon et à Evelyne. Bonjour à la sœur Susanna, son époux. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Les autres, je vous ai salué un peu plus tôt, ou je ne vois pas votre nom. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vois Andrés ici, que Dieu te bénisse Andrés, et Samantha aussi. Bonjour Maggie, soyez bénie. Donc bonjour Chantal, bonjour Léo, soyez bénie. Donc c'est tout ce qui était à partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni, même si je comprends que cette semaine, la question du pardon, la question de la redevabilité vient nous chercher et vient nous secouer, mais parfois c'est bon. C'est bon que Dieu nous confronte avec la réalité des faits et la réalité de notre état pour qu'on puisse changer. S'il ne le faisait pas, ça voudrait dire probablement qu'il était passé à autre chose. Alors je prie que le Seigneur continue à travailler chez toi. Et je prie surtout qu'il continue à travailler chez moi, j'en ai encore besoin. Donc, priez pour moi, prions les uns pour les autres. Et on se retrouve demain matin, c'est une journée de jeûne et de prière demain pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Donc, demain matin, rendez-vous à 8h30 et puis demain soir, rendez-vous à 19h. Alors, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, il va faire chaud aujourd'hui, profitez-en pour ceux qui aiment la chaleur et on se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.